retrouvons cette semaine à nouveau dans le Art Center Aarhus à la Thème Saint-Martin.
Bonjour Laura. Bonjour. Je suis Nidia. Soyez la bienvenue.
Non, merci.
Entre.
Dans cette belle galerie d'art, Nidia van den Bos accueille Laura Warnier, Chief Growth Officer de GoStudent en Autriche. Elle nous parle de cette scale-up extraordinaire qui a fait de l'enseignement à distance un succès formidable.
Eh bien Laura, j'espère que vous avez aimé votre visite dans notre galerie.
Un grand merci Nidia, merci encore.
Au revoir.
Laura Warnier, bonjour.
Bonjour Olivier.
Vous êtes Chief Growth Officer de GoStudent. Vous êtes installé à Vienne, en Autriche. Vous êtes donc responsable de la croissance de cette entreprise qui est spécialisée dans l'enseignement à distance. Comment avez-vous débuté cette aventure ?
Alors, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis partie en Belgique. Donc, j'ai commencé avec des Erasmus à l'étranger et puis des stages. Puis, j'ai fait quelques temps aussi chez Google à Dublin. Et puis, l'amour m'a emmenée en Autriche, à Vienne, où j'ai travaillé pour quelques entreprises. Et puis après, donc, Félix Oswald et Grégoire Müller, qui sont les cofondateurs de GoStudent, qui à l'époque, étaient que eux deux, avec quelques freelancers et étudiants, recherchaient quelqu'un pour, en fait, mettre en place toute la partie commerciale de leurs produits. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez GoStudent.
Vous étiez la première employée de leur initiative.
La deuxième. Exactement.
Ça veut dire, ça consiste en quoi? Alors, l'enseignement à distance, aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent tout, évidemment, mais comment ça fonctionne concrètement?
Donc, chez GoStudent, en fait, on fait du soutien scolaire. Donc, on travaille principalement avec des étudiants de l'âge de 6 à 19 ans et on les aide, en fait, après l'école, que ce soit avec les mathématiques, l'anglais, la géographie. Et en fait, on a mis en place ce qu'on appelle une classe virtuelle où l'élève et le professeur peuvent se rencontrer et avoir 50 minutes de cours pour aider, en fait, l'étudiant.
Des cours de rattrapage, donc,
Exactement.
Et donc, ça se passe quoi dans l'Europe entière, dans le monde entier
Alors, ça a commencé avec la région qu'on appelle DACH. Donc, c'est l'Allemagne, l'Autriche et la partie germanophone de la Suisse. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, home market. Et puis après, on s'est lancé sur la France et la Belgique. Donc, j'ai lancé, justement, GoStudent à l'étranger. La partie francophone était plus facile pour moi. Et puis après, on s'est lancé dans plus de 15 pays. Donc, en fait, on a lancé la partie francophone de Belgique et la France en même temps, l'Espagne. Et puis en 2021, on a lancé 15 pays, que ce soit à travers l'Europe, mais également l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.
Oui, parce que quand on dit que vous êtes responsable de la croissance, ce n'est pas un mince mot. Ça veut dire que c'est une vraie croissance. Vous avez combien maintenant de 2000 employés, c'est ça?
Exactement.
Vous donnez 1,5 million de cours, enfin une croissance de 700%. Enfin, ça donne un peu le vertige, tout ça, non?
Exactement. Donc, moi, j'ai vraiment vu cette évolution d'une petite entreprise avec moins de 10 personnes jusqu'à maintenant 2000 personnes dans 22 pays. Donc, on a des bureaux également dans tous ces pays. Et oui, en effet, ça donne peut-être un peu le vertige une fois qu'on le voit de l'extérieur. Mais quand on y est, en fait, on ne s'en rend même pas compte. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'y penser.
Et c'est une magnifique aventure.
Exactement.
Mais il faut se pincer pour se dire qu'on ne rêve pas parfois
Peut-être que parfois, il faudrait le faire, mais on a tellement d'ambition, je crois qu'on a envie de rester dans le rêve et on a juste envie de continuer à rêver et à construire en fait cette aventure.
Et quoi, c'est se dire qu'on répond en fait à une demande, c'est ça? Il y a un vrai besoin de cet enseignement à distance, de cet enseignement adapté, peut-être en ligne, peut-être avec d'autres méthodes, je ne sais pas.
Alors, le soutien scolaire, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis des années, mais c'est un marché en fait, qui était très segmenté, en fait, fragmenté. Donc, c'est très fort en fait, sur le marché aussi noir, comme on l'appelle. Donc, c'est un petit peu le tuteur d'à côté, le professeur d'à côté, le cousin du frère, etc. Et en fait, nous, on a essayé de ramener en fait, tous ces professeurs sur une plateforme, aussi de s'assurer de la qualité de ces professeurs. Donc, en fait, on accepte que 5% approximativement des étudiants, des professeurs qui veulent enseigner chez GoStudent. Donc, pour assurer justement cette qualité, on va aller évaluer leur connaissance technique du sujet qu'ils veulent étudier, mais également leur connaissance pédagogique, parce que connaître les mathématiques, ce n'est pas suffisant que pour enseigner justement les mathématiques à un enfant de 12 ou 13 ans. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en avant. Et puis, la deuxième chose, c'était démocratiser le soutien scolaire en ligne. Du fait que ce soit en ligne, ça permet évidemment d'avoir des coûts plus bas. Et la troisième chose, c'était l'accès à ces professeurs, même si on est dans un petit village. En Belgique, on a quand même pas mal de populations la densité en Belgique est assez
oui,
élevée.
Il y a des pays où c'est
mais en Autriche,
compliqué,
c'est compliqué. Quand on est dans un village, on est souvent assez perdu. Et les étudiants qui font souvent le soutien scolaire, donc étudiants universitaires qui sont les professeurs, sont souvent dans les grandes villes, que ce soit Vienne, Graz. Et ce n'est pas facile d'accéder justement à ces tuteurs.
Mais alors, en même temps, quand on se développe comme ça, les matières ne sont pas les mêmes, les cours sont différents d'un pays à l'autre. Enfin, j'imagine que quand vous dites 15, 20 pays, même les États-Unis, enfin, j'imagine qu'on n'apprend pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à chaque marché, entre guillemets.
Alors, je vais, à mon avis, pas surprendre la plupart des gens. Mathématiques, ça reste le problème numéro un dans tous les pays, suivi par les langues et puis les sciences. Donc ça, c'est assez, ça reste la même chose. Et nous ne créons pas de contenu. Donc, en fait, les étudiants arrivent avec leurs devoirs, avec la préparation pour leurs examens, et le professeur va s'adapter vraiment au contenu de ce que l'étudiant a vu à l'école.
Il l'accompagne et il l'aide, en fait.
Exactement, exactement. Donc, on n'est pas là pour remplacer l'école, on est là pour accompagner l'étudiant après l'école, un étudiant qui a souvent, en fait, peut-être des difficultés, un étudiant qui a peut-être envie de s'améliorer. Donc, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Le soutien scolaire, ce n'est pas uniquement pour les élèves en difficulté. Tout le monde peut bénéficier du soutien scolaire, que ce soit pour s'améliorer dans une matière dans laquelle on a juste envie de s'améliorer, on a envie d'approfondir, ou juste peut-être pour pouvoir en fait, augmenter ses chances de rentrer dans une université ou autre. Donc ça, c'est aussi important de le mentionner. Et donc l'élève va juste, le professeur va s'adapter aux besoins de l'élève, que ce soit en matière de la manière d'apprendre, de travailler, parce qu'on est tous différents. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps ou autre. Et donc le professeur va montrer une chose différemment.
C'est ça, donc il y a un travail sur la méthode aussi, sur la pédagogie, en fait.
Parce exactement.
Que c'est quoi ? Ça veut dire qu'on se rend compte que là, il y a parfois un manque ou une inadéquation avec les besoins des élèves en matière de pédagogie aujourd'hui ou...
Je dirais pas ça. Je dirais qu'on est dans un système public et il y a une réalité qui fait qu'on ne peut pas avoir un professeur pour un étudiant. Maintenant, les étudiants...
Là, c'est des cours individuels.
Exactement.
En fait.
Nous, on offre des cours individuels, mais on est en accompagnement. Mais le système scolaire public ne saurait pas, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir un professeur pour un élève. Et donc, le professeur qui va avoir une classe de 25 élèves, il va s'adapter à la majorité de sa classe, il va s'adapter à la vitesse à laquelle ils apprennent et la méthodologie qui fonctionne le mieux. Et nous, on va travailler après pour en fait ceux qui sortent peut-être un petit peu de la distribution de la normale pour les aider justement avec des méthodes qui sont différentes.
Et vous, alors comment on travaille la croissance d'une entreprise comme ça ? Ça veut dire qu'on fait en sorte que qu'on fasse connaître ce service dans un certain nombre de pays, on trouve des relais au niveau des systèmes scolaires, comment ça marche ?
Alors, quand GoStudent a commencé en 2016, donc c'est quand l'entreprise a été fondée, et à l'époque, on avait un homework chat, donc c'était une application mobile que les étudiants pouvaient télécharger, et en fait, ils avaient accès à des tuteurs, et ils pouvaient envoyer des messages, et en fait, les tuteurs allaient les aider les étudiants avec leurs exercices de mathématiques, d'anglais ou autres. Mais c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les étudiants, eux, n'allaient pas payer pour cette application mobile. Et alors, au début, quand on a des investisseurs qui investissent dans une start-up, ils acceptent que peut-être le business model et que la rémunération n'est peut-être pas encore là, il n'y a pas encore de revenus, mais à un moment donné, on doit quand même montrer qu'on va générer des revenus. Et donc, on s'est rendu compte qu'avec l'application mobile et les étudiants, ça n'allait pas aller. Par contre, il y avait un besoin qui était là, et le besoin, justement, du soutien scolaire 101, et de le faire en plus avec les outils que les étudiants utilisent, c'est-à-dire le mobile, le téléphone portable, on s'est rendu compte, et aussi l'ordinateur, on s'est rendu compte qu'on pouvait offrir un deuxième service, qui est ce qu'on leur propose aujourd'hui, le soutien scolaire. Mais qui paye le soutien scolaire ? Donc, on a l'étudiant qui est l'utilisateur, mais le parent, au final, est notre client, c'est l'acheteur. Et donc, en fait, on a mis en place à l'époque une équipe de vente qui nous a permis de convaincre le parent que le soutien scolaire, ça pouvait se faire en ligne. Parce qu'avant la pandémie, c'est peut-être déjà un peu oublié, mais il y en a beaucoup qui hésitaient énormément à utiliser les outils en ligne pour l'éducation. C'était vraiment quelque chose, les parents n'y croyaient pas, ils voulaient un professeur qui vienne à la maison et qui allait vraiment s'asseoir à côté de l'enfant et l'aider pour ses devoirs ou ses examens. Et donc nous, on a convaincu justement les parents que ça pouvait se faire en ligne avant la pandémie. Et évidemment, quand la pandémie a commencé, c'est un petit peu, au
ça
départ,
ça a amplifié le mouvement, enfin, ou en tout cas la crédibilité de la démarche, quoi, peut-être.
Alors oui et non. Au tout début, ça a en fait justement ralenti, étonnamment, parce qu'en fait, dans la partie germanophone d'Europe, mais également en France, en Belgique, c'est assez similaire. Le soutien scolaire, c'est là pour aider un élève qui est en difficulté. C'est-à-dire qu'on a un élève qui revient de l'école avec un mauvais point en mathématiques, et soudainement, il y a un peu cette alerte à la maison et le parent est un peu stressé, il ne veut pas que son enfant rate. Et donc, on va aller chercher un professeur pour du soutien scolaire pour quelques heures jusqu'au prochain examen.
En fait, la remédiation.
Exactement. Enfin, ouais. Et avec la pandémie, ben, au début, les écoles, elles ont été fermées. Les écoles fermées, il n'y a pas d'examen. Pas de besoin de soutien scolaire. Et donc, nous, la demande de soutien scolaire, justement, au début de la pandémie, a reculé énormément. Et donc, nous, on a travaillé justement avec les parents pour leur montrer aussi que ce n'était pas à eux de faire maintenant l'éducation des élèves, qu'ils n'étaient pas tout seuls, que nous, on pouvait les accompagner, justement, pour aussi remplacer un petit peu le manque au niveau de l'école publique qui n'arrivait pas à s'adapter aussi rapidement. Et puis après, il y a eu cette phase où tout le monde connaissait l'école en ligne, tout le monde y est passé. Et on a eu la difficulté aussi à ce moment-là qu'au début, ce n'était pas agréable. On avait un professeur pour 25 étudiants en ligne dans l'école publique, des étudiants qui n'étaient peut-être pas aussi focalisés, qui étaient un petit peu, ils n'écoutaient pas spécialement, ils étaient un peu perdus aussi. Donc, on a dû aussi un peu montrer que le soutien scolaire en ligne, un à un ou bien en groupe, c'est aussi différent. Et un à un, il y a vraiment cette partie, je me focalise sur l'étudiant et je suis à 100% avec lui. Et donc, on a dû un petit peu changer cette perception de l'éducation en ligne avant, pendant et après la pandémie.
Et est-ce que ça correspond à un besoin aussi lié à une génération numérique ? Est-ce que quelque part, c'est plus accepté par l'élève, l'enfant, le jeune, parce que c'est en ligne ?
Oui, donc à 100%, c'est plus accessible, c'est un outil qu'ils connaissent, c'est plus ludique. Donc oui, non, vraiment. Et moi, je le dis toujours, si l'école publique devait s'adapter peut-être aussi à l'étudiant, on aurait peut-être que l'école se passerait sur TikTok au jour d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça, mais c'est peut-être, j'imagine, c'est que vous travaillez aussi via des réseaux peut-être, enfin, que ça fait partie de vos moyens de communication en tout cas. Ouais. Laura Warnier, on demande à chacun de nos invités, si aux Belges à l'étranger, d'amener un objet qui parle de leur pays d'adoption.
Oui.
Donc en l'occurrence, vous, c'est l'Autriche. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené ?
Alors, j'ai apporté un objet que tout le monde connaît, mais on ne sait pas souvent d'où ça vient, cet objet-là, justement. On a plutôt des tendances à penser qu'il vient d'Amérique, alors que c'est un produit qui, au début, vient de Thaïlande et, en fait, qui est arrivé ensuite en Autriche, qui
est
le Red Bull. C'est un produit que tout le monde connaît. Red Bull, il a vendu plus de 100 milliards de canettes depuis le début. Donc, ils ont commencé leur aventure en 1987. Mais ça a commencé en Autriche et c'est une boisson qu'ils ont commencé à vendre dans les chalets, à la montagne, pour tous les Autrichiens qui allaient skier.
Et c'est une success story, quoi, aujourd'hui, c'est ça, qui est devenu d'ailleurs un des grands sponsors aussi dans le monde du sport, par exemple. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous inspire, ça ?
Alors oui, alors en Autriche, il n'y a pas énormément de grosses entreprises, de grosses marques. Et nous, en tant dans l'entreprise de la start-up, en fait, on a envie d'être inspiré justement par des entrepreneurs qui, de presque rien, en fait, ont créé un empire. Et là, ils ont trouvé un produit qui existait. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un produit basique, comme nous, le soutien scolaire. Ce n'est pas un produit qu'on a inventé, mais en fait, c'est en le repositionnant, en travaillant en fait quelques petites choses, en montrant comment on peut utiliser ce produit-là, que ça a en fait changé. Et maintenant, Red Bull, c'est une part de marché de plus ou moins 50% dans tout ce qui est les boissons énergisantes. Et donc, c'est vraiment une success story. Et ils ont créé en fait du contenu autour justement de cette d'une canette. Donc, tout ce qui est contenu sportif, ils sont vraiment en fait vu que numéro un en termes de sponsor aussi pour tout ce qui est sport à risque, aussi tout ce qui est les jeux en fait de sport en ligne, et c'est vraiment eux qui sont les leaders à ce niveau-là.
Et donc ça veut dire quoi, que GoStudent, vous le réfléchissez un peu de cette manière-là ?
Alors GoStudent, ça vient plus par contre du niveau éducation, donc c'est vraiment, il y a un besoin sur le marché, un besoin dans l'éducation, donc là ça vient plus de ce niveau-là. Mais maintenant, on veut que ça devienne une marque ici globale, que quand on pense éducation, quand on pense soutien scolaire, on pense à GoStudent, comme quand on pense boisson énergisante, on pense à Red Bull.
Merci d'avoir partagé cet objet avec nous. Pour ne pas devoir le flouter pendant toute l'émission, vous pouvez peut-être le reprendre et le mettre, mettre à vos côtés. Mais c'est une belle histoire autrichienne. Vous êtes arrivé en Autriche, vous avez dit, par amour, donc vous avez suivi votre cœur. En même temps, vous y vivez là depuis un certain temps maintenant. C'est quoi l'Autriche ? C'est un pays qu'on apprend à aimer ? C'est un pays qui a une qualité de vie extraordinaire ?
Alors l'Autriche et Vienne, principalement est toujours vue comme une des meilleures villes en fait dans laquelle habiter. Donc oui, il y a une qualité de vie qui est vraiment géniale parce qu'en fait il y a tout on a besoin dans une ville. Donc c'est-à-dire au niveau de la culture, au niveau aussi des sorties, restaurants, bars, etc. Mais il y a aussi beaucoup de nature. Donc dans la ville en elle-même, mais aussi en une heure on est dans la montagne, on peut aller faire du hiking, on peut aller vraiment à 2000 mètres d'altitude et vraiment profiter de l'air frais. Donc ça c'est vraiment très agréable. Alors au niveau économique, c'est encore une ville qui se développe, je dirais. Ce n'est pas Londres, ce n'est pas Paris, mais ce qui permet justement aussi de ne pas non plus être trop dans le bruit. Donc ça, c'est vraiment un juste milieu.
Et c'est un côté mittel-européen, on connaît un peu la culture des cafés, hein. En tout cas, historiquement, il y avait un peu ça. Ça veut dire que c'est ça aussi, c'est des moments de partage, des moments de vie différents peut-être que dans nos villes à nous.
À 100%, et donc c'est vraiment tous ces petits cafés. Alors on rigole un petit peu toujours de la culture en Autriche, ouais. Avec des serveurs qui font exprès pour le patrimoine de ne pas être trop agréable, donc ça fait partie de la culture autrichienne. Mais donc oui, on a toujours des calèches d'ailleurs dans la ville, ça fait une partie des attractions touristiques. Donc Vienne est toujours en fait une ville d'histoire, il y a encore beaucoup de très beaux bâtiments, donc c'est une ville qui n'a pas été détruite pendant la guerre, et donc vraiment très agréable à vivre et à visiter.
En même temps, pour vous, c'est quoi? C'est une plateforme? C'est un lieu de départ? Vous êtes génération Erasmus? Vous êtes responsable de la croissance d'un groupe qui s'internationalise? Ça veut dire quoi? Vous êtes un peu de partout? Ou bien...
On ne sait plus trop d'où on vient, qu'est-ce qui est la maison, c'est vrai. Moi, je me sens très européenne. Donc ça, c'est vraiment...
Ça, c'est une identité peut-être principale.
Moi, je dirais c'est ma culture. Alors, je suis d'abord liégeoise. C'est quelque chose qui aussi me tient à cœur. Et puis belge. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, européenne. L'anglais est devenu ma langue de tous les jours. Je pense en anglais, je parle en anglais. Et ça me permet vraiment justement de découvrir en fait d'autres cultures, de s'ouvrir l'esprit. Donc c'est vraiment en fait... c'est une identité qui est la mienne.
Ça veut dire intégrer l'identité autrichienne, la langue, j'imagine que c'est l'allemand, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous parlez maintenant bien ou...
Alors je dirais pas comme mon niveau d'anglais, mais je me débrouille en ville. Alors ce qui est assez aussi étonnant quand on arrive en Autriche, c'est que l'allemand qu'on apprend à l'école, le Hochdeutsch, c'est pas celui qu'on parle dans la rue. Donc il faut en fait apprendre toute une nouvelle langue.
Oui, c'est ça. Mais donc ça veut dire quoi? Que vous voyagez beaucoup, que vous êtes... Parce que c'est étonnant pour que quelqu'un de jeune comme ça soit responsable de la croissance d'une société qui s'envole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une génération sans complexe, qui a une ambition qui ne se calcule pas? Comment on imagine ça?
C'est une bonne question. Je pense que c'est une génération qui se voit globale du jour au lendemain. Donc, c'est vrai qu'on a commencé... déjà, on n'a pas commencé avec l'Autriche. On a commencé directement avec le marché germanophone en Europe. Et puis après, on est parti sur les langues, les pays où je connaissais la langue. Et puis après, on s'est dit, une fois qu'on y est... Pourquoi s'arrêter? Et donc, c'est vraiment un peu notre ambition, c'est de se dire qu'on va apporter le soutien scolaire, de la qualité de l'éducation dans le monde entier. On pense à plusieurs startups, que ce soit Uber, Airbnb, etc., qui sont devenues en fait un nom en termes de, si on pense à une maison à louer pendant les vacances ou un hôtel, on pense directement à eux. On aimerait bien aussi que quand un parent ou un élève pense à du soutien scolaire, que GoStudent soit ce qu'on appelle top of mind, parce qu'on fait confiance à la qualité de l'éducation que l'on va apporter et à le fait qu'on apporte cette flexibilité et cette accessibilité en termes de prix.
Un conseil que vous auriez à donner à quelqu'un qui étudie dans une école de management, par exemple, aujourd'hui, je crois que vous avez fait UC Louvain, HEC, c'est ça? Et puis Erasmus, en fait. Donc, ça veut dire quoi? C'est effectivement profiter d'Erasmus, des échanges, apprendre l'anglais.
Il faut se lancer. Donc moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à prendre des cours de langue à l'étranger. Donc j'ai commencé avec EF Education à l'époque, d'abord en Angleterre. Et puis je suis partie à Malte. Et puis je suis partie à Alicante. Et puis je suis partie aux États-Unis. Et puis après, j'ai fait mes Erasmus, etc. Et je pense que voilà, ça a permis de découvrir d'autres cultures. On est aussi toujours un peu une différente personnalité quand on va à l'étranger. Donc c'est ça qui est aussi agréable, c'est qu'on découvre en fait de nouveaux intérêts, on découvre de nouvelles personnes. Et on apprend l'anglais. Et l'anglais, au jour d'aujourd'hui, c'est le véhicule pour vraiment voyager et ne plus avoir de frontières.
Et avoir des ambitions sans limite, quelque part, même si on ne calcule pas tout de suite.
Il faut toujours avoir des limites. Je pense qu'il faut toujours faire un petit peu attention. Il ne faut pas non plus aller... Il faut que ça reste... Il faut toujours un peu cette balance d'humilité et d'ambition. Mais en effet, ça permet vraiment de rêver grand et de se dire, ça ne s'arrête jamais, en fait. On n'arrive jamais au-dessus de la montagne. Il y a toujours quelque chose pour aller plus loin et pour se challenger.
Alors, vous avez dit que vous êtes liégeoise. Oui. Alors, ça, c'est pas anecdotique, jamais, quand on parle de Liégeois. Il y a un lieu que vous aimez particulièrement quand vous revenez en Belgique, parce que vous revenez quand même régulièrement.
Alors, moi, j'apprécie la gare des Guillemins. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est justement un symbole à Liège d'une ville qui a voulu se renouveler, qui a voulu un petit peu montrer qu'il y a un passé et un futur. C'est la gare des Guillemins qui a été construite donc, par Calatrava, qui est un grand architecte, qui a fait vraiment donc, de super bâtiments dans tout le monde entier. Et vraiment, en fait, montrer...
Qui est reconnu, qui a été décrié. Enfin, c'est un peu le liégeois, ça.
Exactement. Et c'est ça que je voulais dire aussi avec le monde de la start-up. Et c'est ça un petit peu cette corrélation. C'est que le nouveau, parfois, ça fait peur. Les ambitieuses, parfois, ça fait peur également. Mais il faut, en fait, parfois se lancer. C'est jamais parfait au début. Il y a toujours des problèmes. Ça ne se passe jamais comme on l'avait entendu. Mais au final, on fait avancer les choses et on apprend. Et je pense que c'est un petit peu ce message. Et il ne faut jamais renier son passé. Donc, c'est comment aussi on intègre un bâtiment nouveau dans un cœur historique, etc. Mais c'était un petit peu cette image que je voulais promouvoir. Et également, la gare, c'est un petit peu l'image du voyage. Pourquoi est-ce qu'on a créé la gare des Guillemins? C'est aussi pour faire passer en fait des trains à grande vitesse pour aller à Paris, à Cologne, etc. Et donc pour en fait permettre aussi à la ville de Liège de se développer.
Et être liégeois, c'est quoi? Ça veut dire une identité particulière? Parce que malgré tout, vous êtes global et en même temps, vous êtes d'une ville qui est très particulière, qui a des racines fortes.
Alors, je pense que le Liégeois est quelqu'un d'assez positif, d'assez
aussi joyeux.
Joyeux, enjoué. On peut s'amuser autour d'une bière. Quelqu'un qui est aussi très accueillant. On dit toujours qu'on peut être tout seul dans un café à Liège, il y aura toujours quelqu'un pour nous payer une bière. Donc ça, c'est aussi quelque chose, ça fait partie de chez nous. Le sarcasme, je pense que c'est aussi c'est une bonne, un bon remède parfois pour. On a tous des toujours des moments dans la vie qui ne sont pas toujours tout roses. Mais le sarcasme permet aussi de contourner un petit peu tout ça. Donc je dirais le sourire et l'accueil du Liégeois.
Alors, vous avez aussi maintenant lancé, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois, une activité en Belgique, enfin, pas seule, mais qui s'appelle Syndicate One,
oui,
c'est ça?
Tout à fait.
Et quoi, l'idée, c'est de promouvoir justement des start-up, leur permettre de leur donner un cadre pour grandir, c'est ça l'idée?
Exactement. Donc, en fait, on s'est mis avec 32 entrepreneurs et investisseurs, tous, je dirais,
De tous les pays ou
Non, belges. Donc, c'est un groupe belge, uniquement des Belges de la partie francophone et flamande. On a aussi une bonne mixité en termes de hommes et femmes. On a une partie, je dirais, un tiers de l'équipe qui vit à l'étranger et deux tiers, plus ou moins, en Belgique. Et ce sont soit des entrepreneurs qui ont fondé eux-mêmes leur start-up ou bien qui travaillent dans des start-up ou bien des personnes qui travaillent en fait au niveau dans des venture capitalistes, donc des investisseurs à risque. Et en fait, on s'est mis tous ensemble, on a investi également nous dans ce fonds pour en fait investir dans des start-up qui ont besoin d'accompagnement financier, mais également de notre réseau et de notre expertise. Donc, on n'est pas uniquement là pour donner de l'argent et puis débrouillez-vous. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut les aider en fait à grandir sur base de ce que nous, on a appris.
Parce qu'on sait qu'en Belgique, singulièrement en Belgique francophone peut-être, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de petites et très petites entreprises, mais que la grande difficulté, c'est justement parfois de passer un cap. C'était ce constat-là qui vous a animé, c'est de se dire à un moment, en fait, il y a des choses qui existent, mais dans notre pays, ça ne décolle pas assez.
Alors, je dirais qu'il y a deux points en Belgique. On a l'humilité et la complexité. On est un petit peu trop humble. Quand on regarde, par exemple, au succès de l'Amérique, ils savent se vendre, ils savent vendre leurs produits, leurs ambitions. Ils ne sont pas gênés de leurs ambitions. C'est quelque chose qui crie haut et fort. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qu'on manque parfois un petit peu en Belgique. La deuxième chose, c'est la complexité du pays, que ce soit au niveau des langues, principalement, de la culture. Et donc, quand on commence, par exemple, en Wallonie, en étant francophone, c'est plus difficile, en fait, de s'étendre sur la partie flamande, par exemple, que si quelqu'un commence directement en France ou en Allemagne, il y a directement un marché qui est plus grand. Et donc, il faut un petit peu essayer de trouver justement, de prendre avantage de cette complexité. On connaît dès le début ce que c'est de vivre dans un pays avec différentes cultures, avec différentes langues, et comment justement ça peut être un moteur pour nous booster à aller directement à l'étranger, ne pas directement se dire « Oh, je crée une entreprise belge ou une entreprise wallonne », mais vraiment se dire « Je vais créer une entreprise européenne dès le premier jour ».
Oui, l'identité européenne est importante pour vous en même temps. C'est vrai qu'un des gros enjeux, wallon singulièrement, c'est la difficulté que connaît cette région à se développer, ou en tout cas à se redresser après le passé industriel. Bah, il y a des bassins industriels, que ce soit à Liège ou à Charleroi. Ça veut dire que ce passé-là, cette difficulté-là, elle compte pour vous ?
Ça, clairement, je pense que même si une région n'est pas un petit peu, en arrêt ou bien c'est un peu ralenti, il faut toujours penser à comment la dynamiser. Il faut, et je pense que la Belgique, la Wallonie, Liège, il y a beaucoup de richesses. On a des pays avec les meilleures universités et je pense qu'il faut vraiment capitaliser dessus et vraiment montrer que la Belgique est là. Quand on pense en Europe, on pense à l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne peut-être. On oublie souvent les pays comme la Belgique, l'Autriche. Mais ce sont des acteurs de l'économie.
C'est beautiful, en quelque sorte.
Exactement, il ne faut pas nous oublier et il faut crier haut et fort.
Et donc, ça veut dire que vous faites ça aussi avec l'ambition de revenir en Belgique ou en tout cas d'avoir un ancrage, peut-être de participer, mm-hmm. de prolonger votre expérience mm-hmm. Chez vous, ouais. entre guillemets, chez vous.
Alors pour moi, c'est de garder un pied en Belgique. Quand on est parti depuis 10 ans, parfois c'est difficile de continuer en fait à apprécier le pays, à voir un petit peu ce qui se passe, les nouveautés, etc. Donc justement, faire partie de cette initiative, ça permet de rester en Belgique. Et la deuxième chose, c'est on a envie que en fait des entrepreneurs restent en Belgique, créent de l'emploi. On a envie d'avoir des success stories en Belgique. On l'a montré en Autriche, c'est possible. Il y a maintenant quelques unicorns aussi qui viennent de déclore ici en Belgique. Et on veut continuer ce mouvement. On veut vraiment montrer que la Belgique, on est sur la carte des entrepreneurs et qu'il y a de l'ambition et des connaissances et des compétences.
Est-ce que vous dites que l'éducation, qui est le pilier sur lequel vous avez travaillé, c'est le gros enjeu de la société à venir, quoi, avec le climat peut-être et la numérisation de la société, c'est un peu les trois piliers qui vous semblent les plus importants?
L'éducation, ce qui est intéressant, c'est que c'est une industrie qui a été très peu digitalisée. Donc, quand on regarde aussi en termes d'investissement, de l'investissement à risque, on a quelque chose comme 300 licornes. Donc, ce sont des entreprises avec une valorisation de plus de 1 milliard dans le monde de la finance. Mais on est à 30 dans le monde de l'éducation. Et c'est comment, justement, on peut montrer que le monde de l'éducation, c'est aussi attractif pour justement attirer les investisseurs, pour justement développer des produits, des services qui vont avoir un impact sur le monde entier. Et l'éducation, c'est la base de tout. Si on veut qu'un pays se développe, il faut en fait avoir le meilleur système éducatif pour les étudiants. Et donc oui, c'est vraiment un point important.
Ce qui vous anime. Merci beaucoup, Laura Barnier. Merci pour ce message d'espoir aussi à partager pour tous ceux qui veulent entreprendre en Belgique. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et merci d'avoir regardé ce Trend Talk Summer dans lequel nous avons rencontré des CEO belges à l'étranger. Merci à vous.